Le lendemain, quand Aladdin fut éveillé, ses valets de chambre se présentèrent pour l'habiller. Ils lui mirent un habit différent de celui du jour des noces, mais aussi riche et aussi magnifique. Ensuite, il se fit amener un des chevaux destinés pour sa personne. Il le monta et se rendit au palais du sultan au milieu d'une grosse troupe d'esclaves qui marchait devant lui, à ses côtés et à sa suite. Le sultan le reçut avec les mêmes honneurs que pour la première fois. Il l'embrassa, et après l'avoir fait asseoir près de lui, sur son trône, il commanda que l'on servît le déjeuner. « Sire, lui dit Aladdin, je supplie votre majesté de me dispenser aujourd'hui de cet honneur. Je viens la prier de me faire celui de venir prendre un repas dans le palais de la princesse avec son grand vizir et les seigneurs de sa cour. » Le sultan lui accorda cette grâce avec plaisir. Il se leva à l'heure même, et comme le chemin n'était pas long, il voulut y aller à pied. Ainsi, il sortit avec Aladdin à sa droite, le grand vizir à sa gauche, et les seigneurs de sa suite précédés par les chaouches et par les principaux officiers de sa maison. Plus le sultan approchait du palais d'Aladdin, plus il était frappé de sa beauté. Ce fut tout autre chose quand il fut entré. Ses acclamations ne cessaient pas à chaque pièce qu'il voyait. Mais quand ils furent arrivés au salon à 24 croisées, où Aladdin l'avait invité à monter, qu'il en eût vu les ornements et surtout qu'il eût jeté les yeux sur les jalousies enrichies de diamants, de rubis et d'émeraudes, toutes pierres parfaites dans leur grosseur proportionnée, et qu'Aladdin lui eût fait remarquer que la richesse était pareille au dehors, il en fut tellement surpris qu'il demeura comme immobile. Après être resté quelque temps en cet état, « Vizir, dit-il à ce ministre qui était près de lui, est-il possible qu'il y ait en mon royaume et si près de mon palais, un palais si superbe que je l'ai ignoré jusqu'à présent ?»« Votre majesté, reprit le grand vizir, peut se souvenir qu'avant-hier elle accorda à Aladdin qu'elle venait de reconnaître pour son gendre la permission de bâtir un palais vis-à-vis du sien. Le même jour, au coucher du soleil, il n'y avait pas encore de palais en cette place. Et hier, j'eus l'honneur de lui annoncer le premier que le palais était fait et achevé. « Je m'en souviens, répartit le sultan, mais jamais je ne me fusse imaginé que ce palais fût une des merveilles du monde. Où en trouve-t-on dans tout l'univers qui soit bâti d'assises d'or et d'argent massif au lieu d'assises de pierre ou de marbre, dont les croisées et des jalousies jonchées de diamants, de rubis et d'émeraudes ? Jamais au monde il n'a été fait mention de choses semblables. » Le sultan voulut voir et admirer la beauté des 24 jalousies. En les comptant, il n'en trouva que 23 qui fussent de la même richesse. Et il fut dans un grand étonnement de ce que la 24e était demeurée imparfaite. « Vizir, dit-il, car le grand vizir se faisait un devoir de ne pas l'abandonner, je suis surpris qu'un salon de cette magnificence soit demeuré imparfait par cet endroit. « Sire, reprit le grand vizir, Aladdin apparemment a été pressé. Et le temps lui a manqué pour rendre cette croisée semblable aux autres, mais on peut croire qu'il a les pierreries nécessaires et qu'au premier jour il y fera travailler. » Aladdin, qui avait quitté le sultan pour donner quelques ordres, vint le rejoindre en ses entrefaites. « Mon fils, lui dit le sultan, voici le salon le plus digne d'être admiré de tous ceux qui sont au monde. Une seule chose me surprend, c'est de voir que cette jalousie soit demeurée imparfaite. Est-ce par oubli, par négligence ? Ou parce que les ouvriers n'ont pas eu le temps de mettre la dernière main à un si beau morceau d'architecture ? Sire, ce n'est par aucune de ces raisons que la jalousie est restée dans l'état où votre majesté la voit. La chose a été faite à dessein, et c'est par mon ordre que les ouvriers n'y ont pas touché. Je voulais que votre majesté eût la gloire de faire achever ce salon et le palais en même temps. Je la supplie de bien vouloir agréer ma bonne intention, afin que je puisse me souvenir de la faveur et de la grâce que j'aurai reçue d'elle. « Si vous l'avez fait dans cette intention, reprit le sultan, je vous en sais bon gré. Je vais dès lors même donner les ordres pour cela. » Et en effet, il ordonna qu'on fît venir les joailliers les mieux fournis de pierreries et les orfèvres les plus habiles de sa capitale. Le sultan cependant descendit du salon, et Aladdin le conduisit dans un lieu où il avait régalé la princesse Badroulboudour le jour des noces. La princesse arriva un moment après. Elle reçut le sultan son père d'un air qui lui fit connaître combien elle était heureuse de son mariage. Deux tables se trouvèrent fournies des mets les plus délicieux et servies tout en vaisselle d'or. Le sultan se mit à la première et mangeait avec la princesse sa fille, Aladdin et le grand vizir. Tous les seigneurs de la cour furent régalés à la seconde qui était fort longue. Le sultan trouva les mets de bon goût et il avoua que jamais il n'avait rien mangé de plus exquis. Il dit la même chose du vin, qui était en effet délicieux. Ce qu'il admira davantage, ce furent 4 grands buffets garnis et chargés à profusion de flacons, de bassins et de coupes d'or massif, le tout enrichi de pierreries. Il fut charmé aussi des chœurs de musique qui étaient disposés dans le salon pendant que les fanfares de trompettes accompagnées de timbales et de tambours retentissaient au dehors à une distance proportionnée pour qu'on en eût tout l'agrément. Dans le temps que le sultan venait de sortir de table, on l'avertit que les joailliers et les orfèvres qui avaient été appelés sur son ordre étaient arrivés. Il remonta au salon à 24 croisées, et quand il y fut, il montra aux joailliers et aux orfèvres qu'il avait suivi la croisée qui était imparfaite. « Je vous ai fait venir, leur dit-il, afin que vous m'accommodiez cette croisée et que vous la mettiez dans la même perfection que les autres. Examinez-les et ne perdez pas de temps à me rendre celle-ci toute semblable. » Les joailliers et les orfèvres examinèrent les 23 autres jalousies avec une grande attention. Et après qu'ils eurent consulté ensemble et qu'ils furent convenus de ce dont ils pouvaient contribuer chacun de son côté, ils revinrent se présenter devant Sultan, et le joaillier ordinaire du palais prit la parole et lui dit « Sire, nous sommes prêts à employer tous nos soins et notre industrie pour obéir à votre majesté, mais entre tous tant que nous sommes de notre profession, nous n'avons pas de pierreries aussi précieuses ni en assez grand nombre pour fournir un si grand travail. »
« J'en ai, dit le sultan, et au-delà de ce qu'il vous faudra, venez à mon palais, je vous mettrai à même et vous choisirez. »
Quand le sultan fut de retour à son palais, il fit apporter toutes ses pierreries, et les joailliers en prirent une très grande quantité, particulièrement celle qui venait du présent d'Aladin. Ils les employèrent sans qu'il parût qu'ils eussent beaucoup avancé. Ils revinrent en prendre d'autres à plusieurs reprises, et en un mois, ils n'avaient pas achevé la moitié de l'ouvrage. Ils employèrent toutes celles du sultan avec ce que le grand vizir lui prêta des siennes, et tout ce qu'ils purent faire avec tout cela fut au plus d'achever la moitié de la croisée. Aladdin, qui connut que le sultan s'efforçait inutilement de rendre la jalousie semblable aux autres et que jamais il n'en viendrait à son honneur, fit venir les orfèvres et leur dit non seulement de cesser leur travail, mais même de défaire tout ce qu'ils avaient fait et de reporter au sultan toutes ses pierreries avec celles qu'il avait empruntées au grand vizir. L'ouvrage que les joailliers et les orfèvres avaient mis plus de 6 semaines à faire fut détruit en peu d'heures. Ils se retirèrent et laissèrent Aladdin seul dans le salon. Il tira sa lampe qu'il avait sur lui et la frotta. Aussitôt, le génie se présenta. « Génie, lui dit Aladdin, je t'avais ordonné de laisser une des 24 jalousies de ce salon imparfaite et tu avais exécuté mon ordre. Présentement, je t'ai fait venir pour te dire que je souhaite que tu la rendes pareille aux autres. » Le génie disparut et Aladdin descendit au salon. Peu de moments après, comme il y fut remonté, il trouva la jalousie dans l'état où il l'avait souhaité, pareil aux autres. Les joailliers et les orfèvres cependant arrivèrent au palais et furent introduits et présentés au sultan dans son appartement. Le premier joaillier, en lui présentant les pierreries qu'il lui rapportait, dit au sultan au nom de tous « Sire, Votre Majesté sait combien il y a de temps que nous travaillons de toute notre industrie à finir l'ouvrage dont elle nous a chargé. Il était déjà fort avancé lorsqu'Aladin nous a obligés non seulement de cesser, mais même de défaire tout ce que nous avions fait et de lui rapporter ses pierreries et celles du grand vizir. » Le sultan leur demanda si Aladin ne leur en avait pas dit la raison. Et comme ils lui eurent remarqué qu'il ne leur avait rien témoigné, il donna ordre sur le champ qu'on lui amenât un cheval. On le lui amena, il le monta, et partit sans autre suite que quelques-uns de ses gens qui l'accompagnèrent à pied. Il arriva au palais d'Aladin et mit pied à terre au bas de l'escalier qui conduisait au salon à 24 croisées. Il y monta sans faire avertir Aladin, mais Aladin s'y trouva fort à propos et n'eut que le temps de recevoir le sultan à la porte. Le sultan s'en donnait à Aladin le temps de se plaindre obligeamment de ce que sa majesté ne l'avait pas fait avertir et qu'elle l'avait mis dans la nécessité de manquer à son devoir, lui dit « Mon fils, je viens moi-même vous demander quelle raison vous avez de vouloir laisser imparfait un salon aussi magnifique et aussi singulier. » Aladin dissimula la véritable raison qui était que le sultan n'était pas assez riche en pierreries pour faire une dépense si grande. Il lui répondit « Sire, il est vrai que votre majesté a vu ce salon imparfait,
mais je la supplie de voir présentement si quelque chose y manque. » Le sultan alla droit à la fenêtre dont il avait vu la jalousie imparfaite. Et quand il eut remarqué qu'elle était semblable aux autres, il crut s'être trompé. Il examina non seulement les deux croisées qui étaient aux deux côtés, il les regarda même toutes les unes après les autres, et quand il fut convenu que la jalousie à laquelle il avait fait employer tant de temps et qui avait coûté tant de journées d'ouvrier venait d'être achevée dans le peu de temps qui lui était connu, il embrassa Aladdin et le baisa au front entre les deux yeux. « Mon fils, lui dit-il rempli d'étonnement, quel homme êtes-vous qui faites des choses si surprenantes et presque en un clin d'œil? Vous n'avez pas votre semblable au monde, et plus je vous connais, plus je vous trouve admirable. » Aladdin reçut les louanges du sultan avec beaucoup de modestie et il lui répondit en ces termes. « Sire, c'est une grande gloire pour moi de mériter la bienveillance et l'approbation de votre majesté. Ce que je puis assurer, c'est que je n'oublierai rien pour mériter l'une et l'autre de plus en plus. » Le sultan retourna à son palais de la manière qu'il était venu, sans permettre à Aladdin de l'y accompagner. En arrivant, il trouva le grand vizir qui l'attendait. Le sultan, encore tout rempli d'admiration de la merveille dont il venait d'être témoin, lui fit le récit en des termes qui ne firent pas douter à ce ministre que la chose ne fût comme le sultan la racontait, mais qui confirmèrent le vizir dans la croyance où il était déjà que le palais d'Aladin était l'effet d'un enchantement. Croyance dont il avait fait part au sultan presque dans le moment où le palais venait de paraître. Il voulut lui répéter la même chose. « Vizir !» lui dit le sultan en l'interrompant. Vous m'avez déjà dit la même chose, mais je vois bien que vous n'avez pas encore mis en oubli le mariage de ma fille avec votre fils. » Le grand vizir vit bien que le sultan était prévenu et il ne voulut pas entrer en contestation avec lui. Il le laissa dans son opinion. Tous les jours, réglément, dès que le sultan était levé, il ne manquait pas de se rendre dans un cabinet où l'on découvrait tout le palais d'Aladin, et il y allait encore plusieurs fois pendant la journée pour le contempler et l'admirer. Aladdin ne demeurait pas renfermé dans son palais. Il avait soin de se faire voir par la ville plus d'une fois chaque semaine, soit qu'il y allât faire sa prière, tantôt dans une mosquée, tantôt dans une autre, ou que de temps en temps, il allât rendre visite au grand vizir qui affectait d'aller lui faire sa cour à certains jours réglés, ou qu'il fît l'honneur aux principaux seigneurs qu'il régalait souvent dans son palais d'aller les voir chez eux. Chaque fois qu'il sortait, il faisait jeter par deux de ses esclaves qui marchaient en troupe autour de son cheval des pièces d'or à poignée dans les rues et dans les places par où il passait et où le peuple se rendait toujours en grande foule. D'ailleurs, pas un pauvre ne se présentait à la porte de son palais sans qu'il s'en retournât content de la libéralité qu'on y faisait par ses ordres. Comme Aladdin avait partagé son temps de manière qu'il n'y avait pas de semaine qu'il n'allât à la chasse au moins une fois, tantôt aux environs de la ville, quelquefois plus loin, il exerçait la même libéralité par les chemins et par les villages. Cette inclination généreuse lui fit donner par tout le peuple 1000 bénédictions, et il était ordinaire de ne jurer que par sa tête. Enfin, sans donner aucun ombrage au sultan, à qui il faisait fort régulièrement sa cour, on peut dire qu'Aladdin s'était attiré par ses manières affables et libérales toute l'affection du peuple et que généralement il était plus aimé que le sultan lui-même. Il joignit à toutes ces belles qualités une valeur et un zèle pour le bien de l'État qu'on ne saurait assez louer. Il en donna des marques à l'occasion d'une révolte vers les confins du royaume. Il n'eut pas plutôt appris que le sultan levait une armée pour la dissiper qu'il le supplia de lui en donner le commandement. Il n'eut pas de peine à l'obtenir. Sitôt qu'il fut à la tête de l'armée, il la fit marcher contre les révoltés. Et il se conduisit en toute cette expédition avec tant de diligence que le sultan apprit plus tôt que les révoltés avaient été défaits, châtiés ou dissipés que son arrivée à l'armée. Cette action qui rendit son nom célèbre dans toute l'étendue du royaume ne changea point son cœur. Il revint victorieux, mais aussi affable qu'il avait toujours été. Il y avait déjà plusieurs années qu'Aladdin se gouvernait, comme nous venons de le dire, quand le magicien qui lui avait donné, sans y penser, le moyen de s'élever à une si haute fortune se souvint de lui en Afrique où il était retourné. Quoique jusqu'alors il se fût persuadé qu'Aladdin était mort misérablement dans le souterrain où il l'avait laissé, Il lui vint néanmoins en pensée de savoir précisément quelle avait été sa fin. Comme il était un grand géomancien, il tira d'une armoire un carré en forme de boîte couverte dont il se servait pour faire ses observations de géomance. Il s'assit sur son sofa, mit le carré devant lui et le découvrit. Après avoir préparé et égalé le sable avec l'intention de savoir si Aladdin était mort dans le souterrain, il jeta ses points, en tira les figures et en forma l'horoscope. En examinant l'horoscope pour porter son jugement, au lieu de découvrir qu'Aladdin fut mort dans le souterrain, il découvrit qu'il en était sorti et qu'il vivait sur terre dans une grande splendeur, puissamment riche, mari d'une princesse honorée et respectée. Le magicien africain n'eut pas plutôt appris par les règles de son art diabolique qu'Aladdin était dans cette grande élévation que le feu lui en monta au visage. De rage, il dit en lui-même « Ce misérable fils de tailleur a découvert le secret et la vertu de la lampe. J'avais cru sa mort certaine et le voilà qui jouit du fruit de mes travaux et de mes veilles. J'empêcherai qu'il n'en jouisse plus longtemps ou je périrai !» Il ne fut pas longtemps à délibérer sur le parti qu'il avait à prendre. Dès le lendemain matin, il monta un barbe qu'il avait dans son écurie et se mit en chemin. De ville en ville, de province en province, sans s'arrêter qu'au temps qu'il en était besoin pour ne pas trop fatiguer son cheval, il arriva à la Chine, et bientôt dans la capitale du sultan dont Aladdin avait épousé la fille. Il mit pied à terre dans un khan, ou hôtellerie publique, où il prit une chambre à louage. Il y demeura le reste du jour et la nuit suivante pour se remettre de la fatigue de son voyage. Le lendemain, avant toute chose, le magicien africain voulut savoir ce que l'on disait d'Aladdin. En se promenant par la ville, il entra dans le lieu le plus fameux et le plus fréquenté par les personnes de grande distinction, où l'on s'assemblait pour boire d'une certaine boisson chaude qui lui était connue dès son premier voyage. Il n'y eut pas plus tôt pris place qu'on lui versa de cette boisson dans une tasse et qu'on la lui présenta. En la prenant, comme il prêtait l'oreille à droite et à gauche, il entendit qu'on s'entretenait du palais d'Aladin. Quand il eut achevé, il s'approcha d'un de ceux qui s'en entretenaient, et prenant son temps, il lui demanda en particulier ce que c'était que ce palais dont on parlait si avantageusement. « D'où venez-vous ? » lui dit celui à qui il s'était adressé. « Il faut que vous soyez bien nouveau venu, si vous n'avez pas vu le palais du prince Aladin, ou plutôt que vous n'en avez pas entendu parler. » On n'appelait plus autrement Aladdin depuis qu'il avait épousé la princesse Badroul-Boudour. « Je ne vous dis pas, continua cet homme, que c'est une des merveilles du monde. Je vous dis que c'est LA merveille unique qu'il y ait au monde. Jamais on n'a rien vu de si grand, de si riche et de si magnifique. Il faut que vous veniez de bien loin, puisque vous n'en avez pas encore entendu parler. En effet, on doit en parler par toute la terre depuis qu'il est bâti. Voyez-le, et vous jugerez si je vous en aurais parlé contre la vérité. Pardonnez mon ignorance, reprit le magicien africain. Je ne suis arrivé que d'hier, et je viens véritablement de si loin, je veux dire de l'extrémité de l'Afrique, que la renommée n'en était pas encore venue jusque-là quand je suis parti. Et comme par rapport à l'affaire pressante qui m'amène, je n'ai eu d'autre vue dans mon voyage que d'arriver au plus tôt, sans m'arrêter et sans faire aucune connaissance, je n'en savais que ce que vous venez de m'apprendre. Mais je ne manquerai pas de l'aller voir. L'impatience que j'en ai est si grande que je suis prêt à satisfaire ma curiosité dès à présent, si vous voulez bien me faire la grâce de m'en enseigner le chemin. » Celui à qui le magicien africain s'était adressé se fit un plaisir de lui enseigner le chemin par où il fallait qu'il passât pour avoir la vue du palais d'Aladin. Et le magicien africain se leva et partit dans le moment. Quand il fut arrivé et qu'il eut examiné le palais de près et de tous les côtés, il ne douta pas qu'Aladin se fût servi de la lampe pour le faire bâtir. Sans s'arrêter à l'impuissance d'Aladin, fils d'un simple tailleur, il savait bien qu'il n'appartient de faire de semblables merveilles qu'à des génies esclaves de la lampe dont l'acquisition lui avait échappé. Piqué au vif du bonheur et de la grandeur d'Aladin, dont il ne faisait presque pas de différence d'avec celle du sultan, il retourna au khan où il avait pris logement. Il s'agissait d'abord de savoir où était la lampe, si Aladin la portait avec lui, ou en quel lieu il la conservait. Et c'est ce qu'il fallait que le magicien découvrît par une opération de géomance. Dès qu'il fut arrivé où il logeait, il prit son carré et son sable qu'il portait en tous ses voyages. L'opération achevée, il connut que la lampe était dans le palais d'Aladin, et il eut une joie si grande de cette découverte qu'à peine il se sentait lui-même. « Je l'aurai, cette lampe, dit-il, et je défie Aladdin de m'empêcher de la lui enlever et de le faire descendre jusqu'à la bassesse d'où il a pris ainsi au vol. » Le malheur pour Aladdin voulut qu'alors il fût allé à une partie de chasse pour 8 jours et qu'il n'y en eût que 3 qu'il fût parti. Et voici de quelle manière le magicien africain en fut informé. Quand il eut fait l'opération qui venait de lui donner tant de joie, il alla voir le concierge du Khan sous prétexte de s'entretenir avec lui. Et il en avait un fort naturel qu'il n'était pas besoin d'amener de bien loin. Il lui dit qu'il venait voir le palais d'Aladin. Et après avoir exagéré tout ce qu'il y avait remarqué de plus surprenant, et tout ce qu'il avait frappé davantage, et qui frappait généralement tout le monde, « Ma curiosité, ajoutait-il, va plus loin, et je ne serais pas satisfait que je n'aie vu le maître à qui appartient un édifice si merveilleux. »«
Il ne vous sera pas difficile de le voir, » reprit le concierge. « Il n'y a presque pas de jour qu'il n'en donne l'occasion quand il est dans la ville. » Mais il y a 3 jours qu'il est dehors pour une grande chasse qui doit en durer 8.
Le magicien africain ne voulut pas en savoir davantage. Il prit congé du concierge et en se retirant, « Voilà le temps d'agir, » dit-il en lui-même. « Je ne dois pas le laisser échapper. » Il alla à la boutique d'un faiseur et vendeur de lampes. « Maître, dit-il, j'ai besoin de me fournir d'une 12 de lampes de cuivre. Pouvez-vous me les fournir ?» Le vendeur lui dit qu'il lui en manquait quelques-unes, mais que s'il voulait donner patience jusqu'au lendemain, il la lui fournirait complète à l'heure qu'il voudrait. Le magicien le voulut bien et lui recommanda qu'elles fussent propres et bien polies. Le lendemain, la 12 de lampes fut livrée au magicien africain qui les paya le prix qui lui fut demandé, sans en rien diminuer. Il les mit dans un panier dont il s'était pourvu tout exprès. Et avec ce panier au bras, il alla vers le palais d'Aladin. Quand il s'en fut approché, il se mit à crier. « Qui veut changer de vieilles lampes pour des neuves ?» À mesure qu'il avançait et d'aussi loin que les petits enfants qui jouaient dans la place l'entendirent, ils accoururent et s'assemblèrent autour de lui avec de grandes huées et ils le regardèrent comme un fou. Les passants riaient de sa bêtise à ce qu'ils s'imaginaient. « Il faut qu'il ait perdu l'esprit pour offrir de changer des lampes neuves contre des vieilles. » Le magicien africain ne s'étonna ni des huées des enfants, ni de tout ce qu'on pouvait dire de lui. Et pour débiter sa marchandise, il continua de crier « Qui veut changer de vieilles lampes pour des neuves ?» Il répéta si souvent la même chose en allant et en venant dans la place devant le palais et alentour, que la princesse Badroulboudour, qui était alors dans le salon aux 24 croisées, entendit la voix d'un homme. Mais comme elle ne pouvait distinguer ce qu'il criait à cause des huées des enfants qu'il suivait et dont le nombre augmentait de moment en moment, elle envoyait une de ses femmes esclaves qui l'approchait de plus près pour voir ce qu'était ce bruit. La femme esclave ne fut pas longtemps à remonter. Elle entra dans le salon avec de grands éclats de rire. Elle riait de si bonne grâce que la princesse ne put s'empêcher de rire elle-même en la regardant. « Eh bien, folle !» dit la princesse. « Veux-tu me dire pourquoi tu ris ?»« Princesse !» répondit la femme. « Qui pourrait s'empêcher de rire en voyant un fou avec un panier plein de belles lampes toutes neuves qui demande non pas à les vendre, mais à les changer contre de vieilles ?» Ce sont les enfants dont il est si fort environné qu'à peine peut-il avancer, qui font tout le bruit qu'on entend en se moquant de lui. Sur ce récit, une vieille femme esclave en prenant la parole.
« À propos de vieilles lampes, dit-elle, je ne sais si la princesse a pris garde qu'en voilà une sur la corniche. Celui à qui elle appartient ne sera pas fâché d'en trouver une neuve. Si la princesse le veut bien, elle peut avoir le plaisir d'éprouver si ce fou est véritablement assez fou pour donner une lampe neuve, en échange d'une vieille, sans rien demander de retour. »
La lampe dont la femme esclave parlait était la lampe merveilleuse dont Aladdin s'était servi pour s'élever au point de grandeur où il était arrivé. Il l'avait mise lui-même sur la corniche avant d'aller à la chasse dans la crainte de la perdre. Il avait d'ailleurs pris la même précaution toutes les autres fois qu'il y était allé. Mais ni les femmes esclaves, ni les eunuques, ni la princesse n'y avaient fait attention une seule fois jusqu'alors. Hors du temps de la chasse, il la portait toujours sur lui. On dira que la précaution d'Aladin était bonne, mais qu'au moins il aurait dû enfermer la lampe. Cela est vrai, mais on a fait semblable faute de tout temps. On en fait encore aujourd'hui, et l'on ne cessera d'en faire. La princesse Badroulboudour, qui ignorait que la lampe fût aussi précieuse qu'elle l'était, entra dans la plaisanterie, et elle commanda à un eunuque de la prendre et d'en aller faire l'échange. Il descendit du salon, et il ne fut pas plutôt sorti de la porte du palais qu'il aperçut le magicien africain. Il l'appela, et quand il fut venu à lui, et en lui montrant la vieille lampe,
« Donne-moi, dit-il, une lampe neuve pour celle-ci. »
Magicien africain ne douta pas que ce fût la lampe qu'il cherchait. Il ne pouvait y en avoir d'autre dans le palais d'Aladin, où toute la vaisselle n'était que d'or et d'argent. Il la prit promptement de la main de l'eunuque, et après l'avoir fourrée bien avant dans son sein, il lui présenta son panier et lui dit de choisir celle qui lui plairait. L'eunuque choisit, et après avoir laissé le magicien, il porta la lampe neuve à la princesse. L'échange ne fut pas plus tôt fait que les enfants firent retentir la place de plus grands éclats qu'ils n'avaient encore faits, en se moquant, selon eux, de la bêtise du magicien. Le magicien africain les laissa criailler tant qu'il voulait, mais sans s'arrêter plus longtemps aux environs du palais d'Aladin, il s'en éloigna sensiblement et sans bruit, c'est-à-dire sans crier et sans parler davantage de changer des lampes neuves pour des vieilles. Il n'en voulait pas d'autre que celles qu'il emportait. Et son silence fit que les enfants s'écartèrent et le laissèrent aller. Dès qu'il fut hors de la place qui était entre les deux palais, il s'échappa par les rues les moins fréquentées. Et comme il n'avait plus besoin des autres lampes ni du panier, il posa le panier et les lampes au milieu d'une rue où il vit qu'il n'y avait personne. Alors, dès qu'il eut enfilé une autre rue, il pressa le pas jusqu'à ce qu'il arrive à une des portes de la ville. En continuant son chemin par le faubourg qui était fort long, il fit quelques provisions avant qu'il sortît. Quand il fut dans la campagne, il se détourna du chemin dans un lieu à l'écart, hors de la vue du monde, où il resta jusqu'au moment qu'il jugea à propos pour achever d'exécuter le dessein qu'il avait amené. Il ne regretta pas le barbe qu'il laissa dans le khan où il avait pris logement. Il était bien dédommagé par le trésor qu'il venait d'acquérir. Le magicien africain passa le reste de la journée dans ce lieu jusqu'à 1 heure de la nuit que les ténèbres furent plus obscures. Alors, il tira la lampe de son sein et la frotta. À cet appel, le génie lui apparut.
« Que veux-tu ? Me voilà prêt à t'obéir comme ton esclave et celui de tous ceux qui ont la lampe à la main, moi et ses autres esclaves. »
« Ah, je te commande, reprit le magicien africain, qu'à l'heure même, tu enlèves le palais que les autres esclaves de la lampe ou toi avaient bâti dans cette ville tel qu'il est, avec tout ce qu'il y a de vivant, et que tu le transportes avec moi en même temps dans un tel endroit de l'Afrique. » Sans lui répondre, le génie, avec l'aide d'autres génies esclaves de la lampe comme lui, le transporta en très peu de temps, lui et le palais en son entier, au propre lieu de l'Afrique qui lui avait été marqué. Nous laisserons le magicien africain et le palais de la princesse Badroulboudour en Afrique pour parler de la surprise du sultan. Car dès qu'il fut levé, il ne manqua pas, selon sa coutume, de se rendre au cabinet ouvert pour avoir le plaisir de contempler et d'admirer le palais d'Aladin. Il jeta la vue du côté où il avait coutume de voir ce palais, et il n'y vit qu'une place vide, telle qu'elle était avant qu'on l'y eût bâtie. Il crut qu'il se trompait et il se frotta les yeux. Mais il ne vit rien de plus que la première fois, quoique le temps fût serein, le ciel net et que l'aurore, qui avait commencé de paraître, rendit tous les objets fort distincts. Son étonnement fut si grand qu'il demeura longtemps dans la même place, les yeux tournés du côté où le palais avait été et où il ne le voyait plus, en cherchant ce qu'il ne pouvait comprendre. Comment il se pouvait qu'un palais aussi grand et aussi apparent que celui d'Aladin, qu'il avait presque vu chaque jour depuis qu'il avait été bâti avec sa permission, et tout récemment encore le jour précédent, se fût évanoui de manière qu'il n'en paraisse pas le moindre vestige. « Je ne me trompe pas, » disait-il en lui-même, « il était dans la place que voilà. Et s'il s'était écroulé, les matériaux paraîtraient en monceaux. Et si la terre l'avait englouti, on en verrait quelques marques de quelque manière que cela fût arrivé. » Et quoique convaincu que le palais n'y était plus, il ne laissa pas néanmoins d'attendre encore quelque temps pour voir si en effet il ne se trompait pas. Il se retira enfin, et après avoir regardé encore derrière lui avant de s'éloigner, il revint à son appartement. Il commanda que l'on fît venir le grand vizir en toute diligence. Et cependant, il s'assit l'esprit agité de pensées si différentes qu'il ne savait quelle partie prendre. Le grand vizir ne se fit pas attendre. Il vint même avec une si grande précipitation que ni lui ni ses gens ne firent réflexion en passant que le palais d'Aladin n'était plus à sa place. Les portiers même, en ouvrant la porte du palais, ne s'en étaient pas aperçus.
« Sire, lui dit le grand vizir, l'empressement avec lequel votre majesté m'a fait appeler m'a fait juger que quelque chose de bien extraordinaire était arrivé, puisqu'elle n'ignore pas qu'il est aujourd'hui jour de conseil et que je ne devrais pas manquer de me rendre à mon devoir dans peu de moments.
Ce qui est arrivé est véritablement extraordinaire, comme tu le dis, et tu vas en convenir. Dis-moi où est le palais d'Aladin. »
« Le palais d'Aladin, sire ?» répondit le grand vizir avec étonnement. « Je viens de passer devant, il m'a semblé qu'il était à sa place. Des bâtiments aussi solides que celui-là ne changent pas de place si facilement. »«
Va voir au cabinet, » répondit le sultan, « et tu viendras me dire si tu l'auras vu. » Le grand vizir alla au cabinet ouvert, et il lui arriva la même chose qu'au sultan. Quand il se fut bien assuré que le palais d'Aladin n'était plus où il avait été, et qu'il n'en paraissait pas le moindre vestige, il revint se présenter au sultan. « Eh bien, as-tu vu le palais d'Aladin ? » lui demanda le sultan.
« Sire, sire, » répondit le grand vizir, « votre majesté peut se souvenir que j'ai eu l'honneur de lui dire que ce palais, qui faisait sujet de son admiration avec ses richesses immenses, n'était qu'un ouvrage de magie et d'un magicien. »
Le sultan ne pouvait disconvenir de ce que le grand vizir lui représentait. Il entra dans une colère d'autant plus grande qu'il ne pouvait désavouer son incrédulité.
« Où est ? » dit-il. « Cet imposteur, ce scélérat que je lui fasse couper la tête !»«
Sire, reprit le grand vizir, il y a quelques jours qu'il est venu prendre congé de votre majesté. Il faut lui envoyer demander où est son palais. Il ne doit pas l'ignorer. »«
Ce serait le traiter avec beaucoup d'indulgence, » répartit le sultan. « Va donner ordre à 30 de mes cavaliers de me l'amener chargé de chaînes. »
Le grand vizir alla donner l'ordre du sultan aux cavaliers, et il instruisit leur officier de quelle manière il devait s'y prendre, afin qu'il ne leur échappât point. Ils partirent, et ils rencontrèrent Aladin à 5 ou 6 lieues de la ville, qui revenait en chassant. L'officier lui dit en l'abordant que le sultan, impatient de le revoir, les avait envoyés pour le lui témoigner et revenir avec lui en l'accompagnant. Aladin n'eut pas le moindre soupçon du véritable sujet qui avait amené ce détachement de la garde du sultan. Il continua de revenir en chassant, mais quand il fut à une demi-heure de la ville, ce détachement l'environna, et l'officier, en prenant la parole, lui dit
« Prince Aladin, c'est avec un grand regret que nous vous déclarons l'ordre que nous avons du sultan de vous arrêter et de vous amener à lui en criminel d'État. Nous vous supplions de ne pas trouver mauvais que nous nous acquittions notre devoir et de nous le pardonner. »
Cette déclaration fut un grand sujet de surprise à Aladin qui se sentait innocent. Il demanda à l'officier s'il savait de quel crime il était accusé, à quoi il répondit que ni lui ni ses gens n'en savaient rien. Comme Aladin vit que ses gens étaient de beaucoup inférieurs au détachement, et même qu'ils s'éloignaient, il mit pied à terre. « Voilà, exécutez l'ordre que vous avez. Je puis dire néanmoins que je ne me sens coupable d'aucun crime. » ni envers la personne du sultan, ni envers l'État. On lui passa aussitôt au cou une chaîne fort grosse et fort longue, dont on le lia aussitôt par le milieu du corps. Ainsi, il n'avait pas les bras libres. Quand l'officier se fut mis à la tête de la troupe, un cavalier prit le bout de la chaîne, et en marchant après l'officier, il mena Aladin qui fut obligé de le suivre à pied. Et dans cet état, il fut conduit à la ville. Quand les cavaliers furent entrés dans le faubourg, les premiers qui virent qu'on menait Aladin au criminel d'État ne doutèrent pas que ce fût pour lui couper la tête. Comme il était aimé généralement, les uns prirent le sabre et d'autres armes, et ceux qui n'en avaient pas s'armèrent de pierres, et ils suivirent les cavaliers. Quelques-uns qui étaient à la queue firent volte-face en faisant mine de vouloir les dissiper, mais bientôt ils grossirent en un si grand nombre que les cavaliers prirent le parti de dissimuler, trop heureux s'ils pouvaient arriver jusqu'au palais du sultan sans qu'on leur enlevât Aladin. Pour y réussir, selon que les rues étaient plus ou moins larges, ils eurent grand soin d'occuper toute la largeur du terrain, tantôt en s'étendant, tantôt en se resserrant. De la sorte, ils arrivèrent à la place du palais, où ils se mirent tous sur une ligne en faisant face à la populace armée, jusqu'à ce que leur officier et le cavalier qui menait Aladin fussent entrés dans le palais, et que les portiers eussent fermé la porte pour empêcher qu'on entrât. Aladin fut conduit devant le sultan qui l'attendait sur le balcon, accompagné du grand vizir. Sitôt qu'il le vit, il commanda au bourreau, qui avait eu ordre de se trouver là, de lui couper la tête sans vouloir l'entendre ni tirer aucun éclaircissement. Quand le bourreau se fut saisi d'Aladin, il lui ôta la chaîne qu'il avait au cou et autour du corps, et après avoir étendu sur la terre un cuir teint de sang d'une infinité de criminels qu'il avait exécutés, il attendit que le sultan donnât le signal pour trancher la tête d'Aladin. En ce moment, le grand vizir aperçut que la populace qui avait forcé les cavaliers et qui avait rempli la place venait d'escalader les murs du palais en plusieurs endroits. Avant que le sultan ne donnât le signal, il lui dit
« Sire, je supplie votre majesté de penser mûrement à ce qu'elle va faire. Elle va courir le risque de voir son palais forcé, et si le malheur arrivait, l'événement pourrait en être funeste. »«
Quoi ? Mon palais forcé ? » reprit le sultan. « Mais qui peut avoir cette audace ?»
Sire, répartit le grand vizir, que votre majesté jette les yeux sur les murs de son palais et sur la place. Elle connaîtra la vérité de ce que je lui dis. »
L'épouvante du sultan fut si grande quand il eut vu une émeute si vive et si animée, que dans le moment même, il commanda au bourreau de remettre son sabre dans le fourreau, d'ôter le bandeau des yeux d'Aladin et de le laisser libre. Il donna ordre aussi au chaouche de crier que le sultan lui faisait grâce et que chacun eut à se retirer. Alors, tous ceux qui étaient déjà montés au haut des murs du palais, témoins de ce qui venait de se passer, abandonnèrent leur dessein. Ils descendirent en peu d'instants, et, pleins de joie d'avoir sauvé la vie à un homme qu'ils aimaient véritablement, ils publièrent cette nouvelle à tous ceux qui étaient autour d'eux. Elle passa bientôt à toute la populace qui était dans la place du palais, et les cris d'un des chaouches, qui annonçait la même chose de la terrasse où ils étaient montés, achevèrent de la rendre publique. La justice que le sultan venait de rendre à Aladin en lui faisant grâce désarma la populace, fit cesser le tumulte, et insensiblement, chacun se retira chez soi. Quand Aladin se vit libre, il leva la tête du côté du balcon, et comme il aperçut le sultan, « Sire, dit-il en élevant la voix d'une manière touchante, je supplie votre majesté d'ajouter une nouvelle grâce à celle qu'elle vient de me faire. C'est de bien vouloir me faire connaître quel est mon crime. »
« Quel est ton crime ? » répondit le sultan. « Ne le sais-tu pas ? Monte jusqu'ici ! Je vais te le faire connaître !»
Aladin monta, et quand il se fut présenté,
« Suis-moi ! »
dit le sultan, en marchant devant lui sans le regarder. Et il le mena jusqu'au cabinet ouvert.
« Entre ! » lui dit le sultan. « Tu dois savoir où est ton palais. Regarde de tous côtés, dis-moi ce qu'il est devenu !»
Aladin regarda et ne vit rien. Il s'aperçut bien de tout le terrain que son palais occupait. Mais comme il ne pouvait deviner comment il avait disparu, cet événement extraordinaire et surprenant le mit dans une confusion et dans un étonnement qui l'empêchèrent de pouvoir répondre. Le sultan, impatient, « Dis-moi donc !» répéta-t-il à Aladin.
« Où est-il, ce palais ? Et où est ma fille ?»
Alors Aladin rompit le silence. « Sire, je vois bien et je l'avoue que le palais que j'ai fait bâtir n'est plus à sa place où il était. Je vois qu'il a disparu, et je ne puis dire à votre majesté où il peut être. Mais je peux l'assurer que je n'ai aucune part à cet événement.
« Je ne me mets pas en peine de ce que ton palais est devenu, reprit le sultan. J'estime ma fille 1 million de fois davantage. Je veux que tu me la retrouves, autrement je te ferai couper la tête, et nulle considération ne m'en empêchera. »
« Sire, partit Aladin. Je supplie votre majesté de m'accorder 40 jours pour faire mes diligences. Si dans cet intervalle je n'y réussis pas, je lui donne ma parole que j'apporterai ma tête au pied de son trône afin qu'elle en dispose à sa volonté.
« Je t'accorde les 40 jours que tu demandes, lui dit le sultan, mais ne crois pas abuser de la grâce que je te fais en pensant t'échapper. En quelque endroit de la terre où tu puisses être, je saurai bien te retrouver. »
Aladin s'éloigna de la présence du sultan dans une grande humiliation et dans un état à faire pitié. Il passa au travers des cours du palais, la tête baissée sans oser lever les yeux dans la confusion où il était, et les principaux officiers de la cour, dont il n'avait pas désobligé un seul, quoique amis, au lieu de s'approcher de lui pour le consoler et pour lui offrir une retraite chez eux, lui tournèrent le dos, autant pour ne le pas voir qu'afin qu'il ne pût pas les reconnaître. Mais quand ils se fussent approchés de lui pour lui dire quelque chose de consolant ou pour lui faire offre de service, ils n'eussent plus reconnu Aladin. Il ne se reconnaissait pas lui-même. Il n'avait plus la liberté de son esprit.
Il le fit bien connaître quand il fut hors du palais, car, sans penser à ce qu'il faisait, il demandait de porte en porte, et à tous ceux qu'il rencontrait, si l'on n'avait pas vu son palais, et si on ne pouvait pas lui en donner des nouvelles. Ces demandes firent croire à tout le monde qu'Aladin avait perdu l'esprit. Quelques-uns n'en firent que rire, mais les gens les plus raisonnables, et particulièrement ceux qui avaient eu quelques liaisons d'amitié ou de commerce avec lui, en furent véritablement touchés de compassion. Il demeura 3 jours dans la ville, en allant tantôt d'un côté, tantôt d'un autre, en ne mangeant que ce qu'on lui présentait par charité, et sans prendre aucune résolution. Enfin, comme il ne pouvait plus, dans l'état malheureux où il se voyait, rester dans une ville où il avait fait une si belle figure, il en sortit et il prit le chemin de la campagne. Il se détourna des routes, et après avoir traversé plusieurs campagnes, dans une incertitude affreuse, il arriva enfin, à l'entrée de la nuit, au bord d'une rivière. Là, il lui prit une pensée de désespoir. « Où irai-je chercher mon palais ? » dit-il en lui-même. « En quelle province, en quel pays, en quelle partie du monde le trouverai-je ? En quelle partie du monde le trouverai-je aussi bien que ma chère princesse que le sultan me demande ? Jamais je n'y réussirai. Il vaut mieux que je me délivre de tant de fatigues qui n'aboutiraient à rien, et de tous les chagrins cuisants qui me rongent. » Il allait se jeter dans la rivière, selon la résolution qu'il venait de prendre. Mais il crut, en bon musulman fidèle à sa religion, qu'il ne devait pas le faire sans avoir auparavant fait sa prière. En voulant s'y préparer, il s'approcha du bord de l'eau pour se laver les mains et le visage, suivant la coutume de son pays. Comme cet endroit était un peu en pente et mouillé par l'eau qui y battait, il glissa. Et il serait tombé dans la rivière s'il ne se fût retenu à un petit roc hors de la terre environ de 2 pieds. Heureusement pour lui, il portait encore l'anneau que le magicien africain lui avait mis au doigt avant qu'il descendît dans le souterrain. Il frotta cet anneau assez fortement contre le roc en se retenant, et dans l'instant même, le génie qui lui était apparu dans le souterrain apparut encore.
« Que veux-tu ? »
lui dit le génie.
« Me voici prêt à t'obéir, comme ton esclave et tous ceux qui ont l'anneau au doigt, moi et les autres esclaves de l'anneau. »
Aladin, agréablement surpris par une apparition si peu attendue dans le désespoir où il était, répondit « Génie, sauve-moi la vie une seconde fois en m'enseignant où est le palais que j'ai fait bâtir et en faisant qu'il soit rapporté incessamment où il était. »«
Ce que tu me demandes n'est pas de mon ressort. Je ne suis que l'esclave de l'anneau. Adresse-toi à l'esclave de la lampe. »
« Si cela est, répartit Aladin, je te demande donc, par la puissance de l'anneau, de me transporter jusqu'au lieu où est mon palais, en quelque endroit de la terre qu'il soit, et de me poser sous les fenêtres de la princesse Badroulboudour. » À peine eut-il achevé de parler que le génie le transporta en Afrique, au milieu d'une prairie où était le palais, peu éloigné d'une grande ville, et le posa précisément en dessous des fenêtres de l'appartement de la princesse où il le laissa. Tout cela se fit en un instant. Nonobstant l'obscurité de la nuit, Aladin reconnut fort bien son palais et l'appartement de celui de la princesse Badroulboudour. Mais comme la nuit était avancée et que tout était tranquille dans le palais, il se retira un peu à l'écart et s'assit au pied d'un arbre. Le lendemain, dès que l'aurore commença à paraître, Aladin fut réveillé agréablement par le ramage des oiseaux qui avaient passé la nuit, non seulement sur l'arbre sous lequel il était, mais sur les arbres touffus du jardin de son palais. Il jeta d'abord les yeux sur cet admirable édifice et sentit une joie inexprimable. Il se leva et se rapprocha de l'appartement de la princesse. Il se promena quelque temps sous ses fenêtres en attendant qu'il fût jour chez elle et qu'on pût l'apercevoir. Dans cette attente, il chercha en lui-même d'où pouvait être venue la cause de son malheur. Et après avoir bien rêvé, il ne douta plus que toute son infortune ne vint d'avoir quitté sa lampe de vue. Il s'accusa lui-même de négligence et du peu de soin qu'il avait eu de ne pas s'en dessaisir un seul instant. Ce qui l'embarrassait davantage, c'est qu'il ne pouvait pas s'imaginer qui était le jaloux de son bonheur. Il l'eût compris d'abord s'il eût su que lui et son palais se trouvaient alors en Afrique. Mais le génie de l'anneau ne lui avait rien dit, et il ne s'en était point informé lui-même. Le seul nom de l'Afrique lui eût rappelé à la mémoire le magicien africain, son ennemi déclaré. La princesse Badroulboudour se levait plus matin qu'elle avait coutume depuis son enlèvement et son transport en Afrique par l'artifice du magicien africain dont jusqu'alors elle avait été contrainte de supporter la vue une fois chaque jour parce qu'il était maître du palais. Mais elle l'avait traité si durement à chaque fois
qu'il n'avait encore osé prendre hardiesse d'y loger. Quand elle fut habillée, une de ses femmes, en regardant au travers d'une jalousie, aperçut Aladin. Elle courut aussitôt avertir sa maîtresse. La princesse, qui ne pouvait croire cette nouvelle, vint vite se présenter à la fenêtre et aperçut également Aladin. Elle ouvrit la jalousie. Au bruit que la princesse fit en l'ouvrant, Aladin leva la tête et il la reconnut et la salua d'un air qui exprimait l'excès de sa joie.
« Pour ne pas perdre de temps, lui dit la princesse, on est allé vous ouvrir la porte secrète. Entrez et montez. »
Et elle ferma la jalousie. La porte secrète était au-dessous de l'appartement de la princesse. Elle se trouva ouverte et Aladin monta jusqu'à l'appartement. Il n'est pas possible d'exprimer la joie que ressentirent ces deux époux de se revoir après s'être crus séparés pour jamais. Ils s'embrassèrent plusieurs fois et se donnèrent toutes les marques d'amour et de tendresse qu'on peut imaginer. Après ces embrassements, mêlés de larmes et de joie, ils s'assirent. Aladin prenant la parole.
« Princesse, dit-il, avant de vous entretenir de toute autre chose, je vous supplie au nom de Dieu, autant pour votre propre intérêt que pour celui du sultan, votre respectable père, que pour le mien en particulier, de me dire ce qu'est devenu une vieille lampe que j'avais mise sur la corniche du salon à 24 croisées.
Ah, cher époux, répondit la princesse, je m'étais bien douté que notre malheur venait de cette lampe. Ce qui me désole, c'est que j'en suis la cause moi-même.
Princesse, reprit Aladin, ne vous en attribuez pas la cause. Elle est toute sur moi, et je devais avoir été plus soigneux de la conserver. Ne songeons qu'à réparer cette perle, et pour cela, faites-moi la grâce de me raconter comment la chose s'est passée. »
Alors la princesse Badroulboudour raconta à Aladin ce qui s'était passé dans l'échange de la lampe vieille pour la neuve qu'elle fit apporter afin qu'il la vît. Et comme, la nuit suivante, après s'être aperçue du transport du palais, elle s'était trouvée le matin dans le pays inconnu où ils étaient actuellement, et qui était l'Afrique, particularité qu'elle avait apprise de la bouche même du traître qu'il y avait fait transporter par son art magique.
« Princesse, dit Aladin, en l'interrompant, vous m'avez fait connaître le traître en me marquant que je suis en Afrique avec vous. Il est le plus perfide de tous les hommes, mais ce n'est ni le temps ni le lieu de vous faire une peinture plus ample de ses méchancetés. Je vous prie seulement de me dire ce qu'il a fait de la lampe et où il l'a mise. »
« Il la porte en son sein, enveloppée bien précieusement, reprit la princesse. Je puis en rendre témoignage, puisqu'il l'en a tirée et l'a développée en ma présence pour m'en faire un trophée.
« Ma princesse, dit alors Aladin, ne me sachez pas mauvais gré de tant de demandes dont je vous fatigue. Elles sont également importantes pour vous et moi. Pour venir à ce qui m'intéresse plus particulièrement, apprenez-moi, je vous en conjure, comment vous vous trouvez du traitement d'un homme aussi méchant et aussi perfide ?
Depuis que je suis en ce lieu, il ne s'est présenté devant moi qu'une fois chaque jour, et je suis bien persuadé que le peu de satisfaction qu'il tire de ses visites fait qu'il ne m'importune pas plus souvent. Tous les discours qu'il me tient chaque fois ne tendent qu'à me persuader de rompre la foi que je vous ai donnée et de le prendre pour époux, en voulant me faire entendre que je ne dois pas espérer vous revoir jamais, que vous ne vivez plus, et que le sultan mon père vous a fait couper la tête. Il ajoute, pour se justifier, que vous êtes un ingrat, que votre fortune n'est venue que de lui, et mille autres choses que je lui laisse dire. Et comme il ne reçoit de moi pour réponse que mes plaintes douloureuses et mes larmes, il est contraint de se retirer, aussi peu satisfait que quand il arrive. Je ne doute pas néanmoins que son intention ne soit de laisser passer mes plus vives douleurs, dans l'espérance que je changerai de sentiment, et à la fin d'user de violence, si je persévère à lui faire résistance. Mes chers époux, votre présence a déjà dissimulé mes inquiétudes.
Princesse, j'ai confiance que ce n'est pas en vain, puisqu'elles sont dissipées, et je crois avoir trouvé le moyen de vous délivrer de votre ennemi et du mien.
Mais pour cela, il est nécessaire que j'aille à la ville. Je serai de retour vers le midi, et alors je vous communiquerai quel est mon dessein et ce qu'il faudra que vous fassiez pour contribuer à le faire réussir. Mais afin que vous en soyez avertis, ne vous étonnez pas de me voir revenir avec un autre habit et donnez ordre qu'on ne me fasse pas attendre à la porte secrète au premier coup que je frapperai. » La princesse lui promit qu'on l'attendrait à la porte et qu'on serait prompt à lui ouvrir. Quand Aladin fut descendu de l'appartement de la princesse et qu'il fut sorti par la même porte, il regarda de côté et d'autre et il aperçut un paysan qui prenait le chemin de la campagne. Comme le paysan allait au-delà du palais et qu'il était un peu éloigné, Aladin pressa le pas. Et quand il l'eut rejoint, il lui proposa de changer d'habit, et il fit tant que le paysan y consentit.
L'échange se fit à la faveur d'un buisson, et quand ils se furent séparés, Aladdin prit le chemin de la ville. Dès qu'il y fut rentré, il enfila la rue qui aboutissait à la porte, et se détournant par les rues les plus fréquentées, il arriva à l'endroit où chaque sorte de marchand, d'artisan avait sa rue particulière. Il entra dans celle des droguistes, et s'adressant à la boutique la plus grande et la mieux fournie, il demanda au marchand s'il avait une certaine poudre qu'il lui nomma.
Le marchand, qui s'imagina qu'Aladin était pauvre à le regarder par son habit et qu'il n'avait pas assez d'argent pour le payer, lui dit qu'il en avait, mais qu'elle était chère.
Aladin pénétra dans la pensée du marchand, il tira sa bourse, et en faisant voir de l'or, il demanda une demi-drachme de cette poudre. Le marchand la pesa, l'enveloppa, et en la présentant à Aladin, il en demanda une pièce d'or. Aladin la lui mit entre les mains, et sans s'arrêter dans la ville qu'autant de temps qu'il en fallut pour prendre un peu de nourriture, il revint à son palais. Il n'attendit pas à la porte secrète, elle lui fut ouverte d'abord, et il monta à l'appartement de la princesse Badroulboudour. « Princesse, lui dit-il, la version que vous avez pour votre ravisseur, comme vous me l'avez témoigné, fera peut-être que vous aurez de la peine à suivre le conseil que j'ai à vous donner, mais permettez-moi de vous dire qu'il est à propos que vous dissimuliez, et même que vous vous fassiez violence, si vous voulez vous délivrer de sa persécution, et donner au sultan votre père et monseigneur la satisfaction de vous revoir. Si vous voulez donc suivre mon conseil, continua Aladdin, vous commencerez dès à présent à vous habiller d'un de vos plus beaux habits. Et quand le magicien africain viendra, ne faites pas de difficulté à le recevoir avec tout le bon accueil possible, sans affectation et sans contrainte, avec un visage ouvert, de manière néanmoins que s'il y reste un nuage d'affliction, il puisse s'apercevoir qu'il se dissipera avec le temps. Dans la conversation, donnez-lui à connaître que vous faites vos efforts pour m'oublier, et afin qu'il soit persuadé davantage de votre sincérité, invitez-le à souper et marquez-lui que vous seriez bien aise de goûter le meilleur vin de son pays. Il ne manquera pas de vous quitter pour en aller chercher. Alors, en attendant qu'il vienne, dans le buffet qui sera mis, mettez dans un des gobelets, pareil à celui dans lequel vous avez coutume de boire, la poudre que voici, et en le mettant à part, avertissez celle de vos femmes qui vous donne à boire de vous l'apporter plein de vin, au signal que vous lui ferez, et dont vous conviendrez avec elle. Qu'elle prenne bien garde de ne pas se tromper. Quand le magicien sera revenu, et que vous serez à table, après avoir mangé et bu, autant de coups que vous le jugerez à propos, faites-vous apporter le gobelet où sera la poudre, et changez votre gobelet avec le sien. Il trouvera la faveur que vous lui ferez si grande qu'il ne la refusera pas. Il boira même sans rien laisser dans le gobelet, et à peine l'aura-t-il vidé, que vous le verrez tomber à la renverse.
Si vous avez de la répugnance à boire dans son gobelet, faites semblant de boire, vous le pouvez sans crainte.
L'effet de la poudre sera si prompt qu'il n'aura pas le temps de faire attention si vous buvez ou ne buvez pas. Quand Aladdin eut achevé, « Je vous avoue, lui dit la princesse, que je me fais grande violence en consentant à faire au magicien les avances que je vois bien qu'il est nécessaire que je lui fasse. Mais quelle résolution ne peut-on pas prendre contre un cruel ennemi? Je ferai donc ce que vous me conseillez, puisque de là mon repos ne dépend pas moins que le vôtre. » Ces mesures prises avec la princesse, Aladdin prit congé d'elle et alla passer le reste du jour aux environs du palais, en attendant la nuit pour se rapprocher de la porte secrète. La princesse Badroulboudour, inconsolable non seulement de se voir séparée d'Aladdin, son cher époux, qu'elle avait aimé d'abord et qu'elle continuait d'aimer encore plus par inclination que par devoir, était toujours demeurée dans une grande négligence de sa personne depuis le moment de cette douloureuse séparation. Elle avait même, pour ainsi dire, oublié la propreté qui sied si bien aux personnes de son sexe, particulièrement après que le magicien se fut présenté à elle pour la première fois, et qu'elle eut appris par ses femmes qui l'avaient reconnu, que c'était lui qui avait pris la vieille lampe en échange de la neuve, et que par cette fourberie insigne, il lui fut devenu en horreur. Mais l'occasion d'en prendre vengeance comme il le méritait, et plus tôt qu'elle n'avait osé l'espérer, fit qu'elle résolut de contenter Aladdin. Ainsi, dès qu'il se fut retiré, elle se mit à sa toilette, se fit coiffer par ses femmes de la manière qui lui était la plus avantageuse, et elle mit un habit le plus riche et le plus convenable à son dessein. La ceinture dont elle se ceignit n'était qu'or et diamants enchâssés, les plus gros et les mieux assortis, et elle accompagna la ceinture d'un collier de perles seulement. Les bracelets, entremêlés de diamants et de rubis, répondaient merveilleusement à la richesse de la ceinture et du collier.
Quand la princesse Badroulboudour fut entièrement habillée, elle consulta son miroir et prit l'avis de ses femmes sur tout son ajustement. Et après qu'elle eut vu qu'il ne lui manquait aucun des charmes qui pouvaient flatter la folle passion du magicien africain, elle s'assit sur son sofa en attendant qu'il arrivât. Oh, le magicien africain ne manqua pas de venir à son heure ordinaire. Dès que la princesse le vit entrer dans son salon aux 24 croisées où elle l'attendait, elle se leva avec tout son appareil de beauté et de charme, et elle lui montra de la main la place honorable où elle attendait qu'il se mît pour s'asseoir en même temps que lui. Civilité distinguée qu'elle ne lui avait pas encore faite. Le magicien africain, plus ébloui de l'éclat des beaux yeux de la princesse que du brillant des pierreries, fut fort surpris. Son air majestueux et un certain air gracieux dont elle l'accueillait, si opposé aux rebuts avec lesquels elle l'avait reçu jusqu'alors, le rendirent confus. D'abord, il voulut prendre place sur le bord du sofa. Mais comme il vit que la princesse ne voulait pas s'asseoir dans la sienne, qu'il ne se fût assis où elle souhaitait, il obéit. Quand le magicien africain fut placé, la princesse, pour le tirer de l'embarras où elle le voyait, prit la parole en le regardant d'une manière à lui faire croire qu'il ne lui était plus odieux. Elle lui dit « Vous vous étonnez sans doute de me voir aujourd'hui tout autre que vous m'avez vu jusqu'à présent, mais vous n'en serez plus surpris quand je vous dirai que je suis d'un tempérament si opposé à la tristesse, à la mélancolie, au chagrin et aux inquiétudes, que je cherche à les éloigner le plus tôt qu'il m'est possible et que je trouve que le sujet en est passé. J'ai fait réflexion sur ce que vous m'avez représenté du destin d'Aladin, et de l'humeur dont je connais mon père, je suis persuadé comme vous qu'il n'a pu éviter l'effet terrible de son courroux. Ainsi, quand je m'opiniâtrerai à le pleurer toute ma vie, je vois bien que mes larmes ne le feraient pas revivre. C'est pour cela qu'après lui avoir rendu, même jusque dans le tombeau, les devoirs que mon amour demandait que je lui rendisse, il m'a paru que je devais chercher tous les moyens pour me consoler. Voilà les motifs du changement que vous voyez en moi. Pour commencer donc à éloigner tout sujet de tristesse et persuadé que vous voudrez bien me tenir compagnie, j'ai commandé que l'on nous prépare à souper. Mais comme je n'ai que du vin de la Chine et que je me trouve en Afrique, il m'a pris une envie de goûter de celui qu'elle produit. J'ai cru, s'il y en a, que vous en trouverez du meilleur. Le magicien africain, qui avait regardé comme impossible le bonheur de parvenir si promptement et si facilement à entrer dans les bonnes grâces de la princesse, lui marqua qu'il ne trouvait pas de terme assez fort pour lui témoigner combien il était sensible à ses bontés. Et en effet, il se jeta sur le vin d'Afrique dont elle venait de lui parler, et lui dit que parmi les avantages dont l'Afrique pouvait se glorifier, celui de produire d'excellents vins était un des principaux, particulièrement dans la partie où elle se trouvait, qu'il en avait une pièce de 7 ans qui n'était pas encore entamée, et que, sans trop le priser, c'était un vin qui surpassait en bonté les vins les plus exquis du monde. « Si ma princesse, ajouta-t-il, veut me le permettre, j'irais en prendre 2 bouteilles et je serai de retour incessamment. Oh, je serais fâché de vous donner cette peine, lui dit la princesse, il vaut mieux que vous envoyiez quelqu'un. Il est nécessaire que j'y aille moi-même, répartit le magicien, personne que moi ne sait où est la clé du magasin, et personne que moi non plus n'a le secret de l'ouvrir. Allons, si cela est ainsi, dit la princesse, allez donc, et revenez promptement. Plus vous mettrez de temps, et plus j'aurai d'impatience à vous revoir. Et songez que nous nous mettrons à table dès que vous serez de retour. » Le magicien africain, plein d'espérance de son prétendu bonheur, ne courut pas chercher son 27 ans. Il y vola, et il revint fort promptement. La princesse, qui n'avait pas douté qu'il ne fît diligence, avait jeté elle-même la poudre qu'Aladin lui avait apportée dans un gobelet qu'elle avait mis à part, et qu'elle venait de faire servir. Ils se mirent à table vis-à-vis l'un de l'autre, de manière que le magicien avait le dos tourné au buffet. En lui présentant ce qu'il y avait de meilleur, la princesse lui dit « Si vous voulez, je vous donnerai le plaisir des instruments et des voix, mais comme nous ne sommes que vous et moi, il me semble que la conversation nous donnera plus de plaisir. » Le magicien regarda ce choix de la princesse comme une nouvelle faveur. Après qu'ils eurent mangé quelques morceaux, la princesse demanda à boire. Elle but à la santé du magicien. Et quand elle eut bu, « Vous aviez raison de faire l'éloge de votre vin. Jamais je n'en avais bu de si délicieux. »« Oh, charmante princesse, répondit-il en tenant à la main le gobelet qu'on venait de lui présenter. Mon vin acquiert une nouvelle bonté par l'approbation que vous lui donnez.
Buvez à ma santé, reprit la princesse. Vous trouverez vous-même que je m'y connais.
Il but à la santé de la princesse, et en rendant le gobelet, « Princesse, dit-il, je me tiens heureux d'avoir réservé cette pièce pour une si bonne occasion. J'avoue moi-même que je n'en ai bu de ma vie de si excellent en plus d'une manière. »
Quand ils eurent continué de manger et de boire trois autres coups, la princesse, qui avait achevé de charmer le magicien africain par ses honnêtetés et par ses manières tout obligeantes, donna enfin le signal à la femme qui lui donnait à boire, en disant en même temps qu'on lui apporta son gobelet plein de vin et qu'on remplit de même celui du magicien africain et qu'on le lui présenta. Quand ils eurent chacun leur gobelet,
« Je ne sais,
dit-elle au magicien africain, comment on en use chez vous quand on s'aime bien et qu'on boit ensemble comme nous le faisons.
Chez nous, à la Chine, l'amant et l'amante se présentent réciproquement chacun leur gobelet et de la sorte, ils boivent à la santé l'un de l'autre. »
En même temps, elle lui présenta le gobelet qu'elle tenait en avançant l'autre main pour recevoir le sien. Le magicien africain se hâta de faire cet échange, avec d'autant plus de plaisir qu'il regarda cette faveur comme la marque la plus certaine de la conquête entière du cœur de la princesse, ce qui le mit au comble du bonheur. Avant qu'il bût, « Princesse, dit-il, le gobelet à la main, il s'en faut de beaucoup que nos Africains soient aussi raffinés dans l'art d'assaisonner l'amour de tous ces agréments que les Chinois. Et en m'instruisant d'une leçon que j'ignorais, j'apprends aussi à quel point je dois être sensible à la grâce que je reçois. Jamais je ne l'oublierai, aimable princesse. J'ai retrouvé, en buvant dans votre gobelet, une vie dont votre cruauté m'eût fait perdre l'espérance si elle eût continué. » La princesse Badroulboudour, qui s'ennuyait du discours du magicien à perte de vue, « Buvons, dit-elle en l'interrompant. Vous reprendrez après ce que vous voulez me dire. » Et en même temps, elle porta la bouche au gobelet qu'elle ne touchait que du bout des lèvres, pendant que le magicien africain se pressa si fort de la prévenir qu'il vida le sien sans en laisser une goutte. En achevant de le vider, comme il avait un peu penché la tête en arrière pour montrer sa diligence, il demeura quelque temps en cet état, jusqu'à ce que la princesse, qui avait toujours le bord du gobelet sur ses lèvres, vit que les yeux lui tournaient et qu'il tomba sur le dos sans sentiment. La princesse n'eut pas besoin qu'on allât commander d'ouvrir la porte secrète à Aladdin. Ces femmes qui avaient le mot s'étaient disposées d'espace en espace depuis le salon jusqu'au bas de l'escalier, de manière que le magicien africain ne fût pas plutôt tombé à la renverse que la porte lui fut ouverte presque dans le même moment. Aladdin monta et il entra dans le salon. Dès qu'il eut vu le magicien africain étendu sur le sofa, il arrêta la princesse qui s'était levée et qui avançait pour lui témoigner sa joie. « Princesse, il n'est pas encore temps. « Obligez-moi de vous retirer à votre appartement et faites qu'on me laisse seul pendant que je vais travailler à vous faire retourner à la Chine avec la même diligence que vous en avez été éloigné. » En effet, quand la princesse fut hors du salon avec ses femmes, Aladdin ferma la porte. Et après qu'il se fut approché du cadavre du magicien africain qui était demeuré sans vie, il ouvrit sa veste et il en tira la lampe enveloppée de la manière que la princesse lui avait marquée. Il la développa et la frotta. Aussitôt, le génie se présenta avec son compliment ordinaire. « Génie, lui dit Aladdin, je t'ai appelé pour t'ordonner, de la part de la lampe, ta bonne maîtresse, de faire que ce palais soit reporté incessamment à la Chine, au même lieu et à la même place d'où il a été apporté ici. » Le génie, après avoir marqué par une inclination de tête qu'il allait obéir, disparut. En effet, le transport se fit, et on ne le sentit que par deux agitations fort légères, l'une quand il fut enlevé, l'autre quand il fut posé à la Chine. Tout ceci se fit dans un intervalle de très peu de durée. Aladdin descendit à l'appartement de la princesse. Et alors, en l'embrassant, « Princesse, dit-il, je puis vous assurer que votre joie et la mienne seront complètes demain matin. » Comme la princesse n'avait pas achevé de souper et qu'Aladdin avait besoin de manger, elle fit apporter du salon aux 24 croisées les mets qu'on y avait servis et auxquels on n'avait presque pas touché. La princesse et Aladdin mangèrent ensemble et burent du bon vin vieux du magicien africain. Après quoi, sans parler de leur entretien, qui ne pouvait être que très satisfaisant, ils se retirèrent dans leur appartement. Depuis l'enlèvement du palais d'Aladin et de la princesse, le sultan était inconsolable de l'avoir perdu. Il ne dormait presque ni jour ni nuit. Et au lieu d'éviter tout ce qui pouvait l'entretenir dans son affliction, c'était au contraire ce qu'il cherchait avec le plus de soin. Ainsi, au lieu qu'auparavant il n'allait que le matin au cabinet ouvert de son palais pour se satisfaire de l'agrément de cette vue, il y allait plusieurs fois le jour, renouveler ses larmes et se plonger de plus en plus dans les profondes douleurs. L'aurore ne faisait encore que paraître lorsque le sultan vint à ce cabinet, le même matin que le palais d'Aladin venait d'être rapporté à sa place. Et en y entrant, il était si recueilli sur lui-même, si pénétré de sa douleur, qu'il jeta des yeux d'une manière triste du côté de la place où il ne croyait voir que l'air vide. Mais comme il vit que ce vide était rempli, il s'imagina d'abord que c'était l'effet d'un brouillard. Il regarda avec plus d'attention, et il connut à n'en pas douter que c'était le palais d'Aladin. Alors, la joie et l'épanouissement du cœur succédèrent au chagrin et à la tristesse. Il retourna à son appartement en pressant le pas, et il commanda qu'on lui selle et qu'on lui amène un cheval. On le lui amena, et il le monta. Aladin, qui avait prévu ce qui pouvait arriver, s'était levé dès la petite pointe du jour, et dès qu'il eut pris un de ses habits les plus magnifiques, il était monté au salon des 24 croisés, d'où il aperçut le sultan qui venait. Il descendait et fut assez à temps pour le recevoir au bas du grand escalier et l'aider à mettre pied à terre. « Aladin, lui dit le sultan, je ne puis vous parler que je n'ai vu et embrassé ma fille. » Aladin conduisit le sultan à l'appartement de la princesse. Et celle-ci, qu'Aladin en se levant avait averti de se souvenir qu'elle n'était plus en Afrique mais bien dans la Chine, et dans la ville capitale du sultan son père, voisine de son palais, venait d'achever de s'habiller. Le sultan l'embrassa à plusieurs fois, le visage baigné de larmes de joie, et la princesse de son côté lui donna toutes les marques du plaisir extrême qu'elle avait de le revoir. Le sultan fut quelque temps sans pouvoir ouvrir la bouche pour parler, tant il était attendri d'avoir retrouvé sa chère fille après l'avoir pleurée sincèrement comme perdue. Et la princesse de son côté était tout en larmes de la joie qu'elle avait de retrouver son père. Il prit enfin la parole. « Ma fille, dit-il, je veux croire que c'est la joie que vous avez de me revoir qui fait que vous paraissiez aussi peu changée que s'il ne vous était rien arrivé de fâcheux. Je suis persuadé néanmoins que vous avez beaucoup souffert. On n'est pas transporté dans un palais tout entier aussi subitement que vous l'avez été, sans de grandes alarmes et de terribles angoisses. Je veux que vous me racontiez tout ce qui en est et que vous ne me cachiez rien. » La princesse se fit un plaisir de donner au sultan son père la satisfaction qu'il demandait. « Sire, dit la princesse, si je parais si peu changé, je supplie votre majesté de considérer que je commençais à respirer dès hier de grand matin par la présence d'Aladin, mon cher époux et mon libérateur, que j'avais regardé et pleuré comme perdu pour moi, et que le bonheur que je viens d'avoir de l'embrasser me remet à peu près dans la même assiette qu'auparavant. Toute ma peine néanmoins, à proprement parler, n'a été que de me voir arraché à votre majesté et à mon cher époux, non seulement par rapport à mon inclination à l'égard de mon époux, mais même par l'inquiétude où j'étais sur les tristes effets du courroux de votre majesté, auquel je ne doutais pas qu'il ne dût être exposé, tout innocent qu'il était. J'ai moins souffert de l'insolence de mon ravisseur qui m'a tenu des discours qui ne me plaisaient pas. Je les ai arrêtés par l'ascendant que j'ai su prendre sur lui. D'ailleurs, j'étais aussi peu contrainte que je le suis présentement. Pour ce qui regarde le fait de mon enlèvement, Aladin n'y a aucune part. J'en suis la seule cause, mais très innocente. Pour persuader au sultan qu'elle disait la vérité, elle lui fit le détail du déguisement du magicien africain en marchant de lampes neuves à changer contre des vieilles et du divertissement qu'il s'était donné en faisant l'échange de la lampe d'Aladin, dont elle ignorait le secret et l'importance, de l'enlèvement du palais et de sa personne après cet échange et du transport de l'un et l'autre en Afrique. Enfin, de l'arrivée d'Aladin, des mesures prises conjointement et comment ils y avaient réussi. Quant au reste, ajouta-t-elle, je laisse à Aladin à vous en rendre compte. Aladin eut peu de choses à dire au sultan. Quand, dit-il, on m'eut ouvert la porte secrète, que j'eus monté au salon aux 24 croisés et que j'eus vu le traître étendu mort sur le sofa par la violence de la poudre, comme il ne convenait pas que la princesse restât davantage, je la priai de descendre à son appartement avec ses femmes et ses eunuques. Je restai seul, et après avoir tiré la lampe du sein du magicien, je me servis du même secret dont il s'était servi pour enlever ce palais en ravissant la princesse. J'ai fait en sorte que le palais se retrouvât en place, et j'eus le bonheur de ramener la princesse à votre majesté, comme elle me l'avait commandé.
Je n'en impose pas à votre majesté, et si elle veut se donner la peine de monter au salon, elle verra le magicien puni comme il le méritait. » Pour s'assurer entièrement de la vérité, le sultan se leva et monta, et quand il eut vu le magicien africain mort, le visage déjà livide par la violence du poison, il embrassa Aladdin avec beaucoup de tendresse en lui disant « Mon fils, ne me sachez pas mauvais gré du procédé dont j'ai usé contre vous. L'amour paternel m'y a forcé, et je mérite que vous me pardonniez l'excès où je me suis porté. Sire, je n'ai pas le moindre sujet de plainte contre la conduite de votre majesté. Elle n'a fait que ce qu'elle devait faire. Ce magicien, cet infâme, ce dernier des hommes, est la cause unique de ma disgrâce. Quand votre majesté en aura loisir, je lui ferai le récit d'une autre malice qu'il m'a faite non moins noire que celle-ci, dont j'ai été préservé par une grâce de Dieu toute particulière. Je prendrai ce loisir exprès, répartit le sultan, et bientôt. Mais songeons à nous réjouir, et faites ôter cet objet odieux. » Aladdin fit enlever le cadavre du magicien africain, avec ordre de le jeter à la voirie pour servir de pâture aux animaux et aux oiseaux. Le sultan, cependant, après avoir commandé que les tambours, les timbales et les trompettes et les autres instruments annonçassent la joie publique, fit proclamer une fête de 10 jours en réjouissance du retour de la princesse et d'Aladin. C'est ainsi qu'Aladin échappa pour la seconde fois au danger presque inévitable de perdre la vie, mais ce ne fut pas le dernier. Il en courut un troisième dont nous allons rapporter les circonstances. Le magicien africain avait un frère cadet qui n'était pas moins habile que lui dans l'art magique. On peut même dire qu'il le surpassait en méchanceté et en artifices pernicieux. Comme ils ne demeuraient pas toujours ensemble ou dans la même ville, et que souvent l'un se trouva au levant pendant que l'autre était au couchant, il ne manquait pas chaque année de s'apprendre par la géomance en quelle partie du monde ils étaient et en quel état ils se trouvaient, et s'ils n'avaient pas besoin du secours l'un de l'autre. Quelque temps après que le magicien africain eut succombé dans son entreprise contre le bonheur d'Aladin, son cadet, qui n'avait pas eu de ses nouvelles depuis un an, et qui était non en Afrique mais dans un pays très éloigné, voulut savoir en quel endroit de la terre il était et comment il se portait et ce qu'il y faisait. En quelques lieux qu'il alla, il portait toujours avec lui son carré géomantique, aussi bien que son frère. Il prit le carré et accommoda le sable. Il jeta les points, en tira les figures, et enfin forma l'horoscope. En parcourant chaque figure, il trouva que son frère n'était plus au monde, qu'il avait été empoisonné et qu'il était mort subitement, que cela était arrivé à la Chine, et même dans une capitale de la Chine située en tel endroit. Et enfin, que celui par qui il avait été empoisonné était un homme de bonne naissance qui a épousé une princesse fille de sultan. Quand le magicien eut appris de la sorte quelle avait été la triste destinée de son frère, il ne perdit pas de temps en des regrets qui ne lui eussent pas redonné la vie. La résolution prise sur le temps de venger sa mort, il monta à cheval et se mit en chemin en prenant la route vers la Chine. Il traversa plaines, rivières, montagnes, déserts et après une longue traite sans s'arrêter en aucun endroit, avec des fatigues incroyables, il arriva enfin à la Chine. Certain qu'il ne s'était pas trompé et n'avait pas pris un royaume pour un autre, il s'arrêta dans la capitale et y prit logement. Le lendemain de son arrivée, le magicien sortit, et en se promenant par la ville, non pas tant pour en remarquer les beautés qui lui étaient fort indifférentes, que dans l'intention de commencer à prendre des mesures pour l'exécution de son dessein pernicieux, il s'introduisit dans les lieux les plus fréquentés et il prêta l'oreille à ce que l'on disait. Dans un lieu où l'on passait le temps à jouer à plusieurs sortes de jeux et où pendant que les uns jouaient, d'autres s'entretenaient, les uns des nouvelles et des affaires du temps, d'autres de leurs propres affaires, il entendit qu'on s'entretenait et qu'on racontait des merveilles de la vertu de la piété d'une femme retirée du monde nommée Fatima, et même de ses miracles. Comme il crut que cette femme pouvait lui être utile à quelque chose dans ce qu'il méditait, il prit à part un de ceux de la compagnie et il le pria de vouloir bien lui dire plus particulièrement quelle était cette sainte femme et quelle sorte de miracle elle faisait.
« Quoi ? Lui dit cet homme, vous n'avez pas encore vu cette femme ni entendu parler d'elle ? Elle fait l'admiration de toute la ville par ses jeûnes, par ses austérités et par le bon exemple qu'elle donne. À la réserve du lundi et du vendredi, elle ne sort pas de son petit ermitage. Et les jours qu'elle se fait voir par la ville, elle fait des biens infinis, et il n'y a personne d'affligé du mal de tête qui ne reçoive la guérison par l'imposition de ses mains. »
Le magicien ne voulut pas en savoir davantage sur cet article. Il demanda seulement au même jeune homme en quel quartier de la ville était l'ermitage de cette sainte femme. Cet homme le lui enseigna, sur quoi, après avoir conçu et arrêté le dessein détestable dont nous allons parler bientôt, il observa toutes ses démarches le premier jour qu'elle sortit après avoir fait cette enquête, sans la perdre de vue jusqu'au soir, qu'il la vit rentrer dans son ermitage. Quand il eut bien remarqué l'endroit, il se retira dans un des lieux que nous avons dit où l'on buvait une certaine boisson chaude et où l'on pouvait passer la nuit si l'on voulait, particulièrement dans les grandes chaleurs, que l'on aime mieux, en ces pays-là, coucher sur la natte que dans un lit. Le magicien, après avoir contenté le maître du lieu en lui payant le peu de dépenses qu'il avait faites, sortit vers minuit et alla droit à l'ermitage de Fatima la Sainte Femme, nom sous lequel elle était connue dans toute la ville. Il n'eut pas de peine à ouvrir la porte, elle n'était fermée qu'avec un loquet. Il le referma sans faire de bruit. Quand il fut rentré, il aperçut Fatima. Elle était couchée à l'air et dormait sur un sofa garni d'une méchante natte, appuyée contre sa cellule. Il s'approcha d'elle, et après avoir tiré un poignard qu'il portait au côté, il l'éveilla. En ouvrant les yeux, la pauvre Fatima fut fort étonnée de voir un homme prêt à la poignarder. En lui appuyant le poignard contre le cœur, prêt à l'y enfoncer, « Si tu cries, ou si tu fais le moindre bruit, je te tue. Lève-toi et fais ce que je te dirai. » Fatima, qui était couchée dans son habit, se leva en tremblant de frayeur. « Ne crains pas, lui dit le magicien. Je ne te demande que ton habit, donne-le-moi et prends le mien. » Ils firent l'échange d'habits. Et quand le magicien fut habillé de celui de Fatima, il lui dit « Colore-moi le visage comme le tien, de manière que je te ressemble et que la couleur ne s'efface pas. » Comme il vit qu'elle tremblait encore, pour la rassurer et afin qu'elle fît ce qu'il souhaitait avec plus d'assurance, il lui dit « Ne crains rien, te dis-je encore une fois. Je te jure par le nom de Dieu que je te donne la vie. » Fatima le fit entrer dans sa cellule. Elle alluma la lampe, et en prenant d'une certaine liqueur dans un vase avec un pinceau, elle lui en frotta le visage et lui assura que la couleur ne changerait pas et qu'il avait le visage de la même couleur qu'elle, sans différence. Elle lui mit ensuite sa propre coiffure sur la tête avec un voile, dont elle lui enseigna comment il fallait qu'il se cachât le visage en allant par la ville. Enfin, après qu'elle lui eut mis autour du cou un gros chapelet qui lui pendait par devant, elle lui mit à la main le même bâton qu'elle avait coutume de porter. Et en lui présentant un miroir, « Regardez, fit-elle, vous verrez que vous me ressemblez, on ne peut pas faire mieux. » Le magicien se trouva comme il l'avait souhaité. Mais il ne tint pas à la bonne Fatima le serment qu'il lui avait fait si solennellement. Afin qu'on ne vît pas de sang, au lieu de la percer de son poignard, il l'étrangla. Et quand il vit qu'elle avait rendu l'âme, il traîna son cadavre jusqu'à la citerne de l'ermitage et le jeta dedans. Le magicien, ainsi déguisé en Fatima la Sainte Femme, passa le reste de la nuit dans l'ermitage, après s'être souillé d'un meurtre si détestable. Le lendemain, à 1h ou 2 du matin, quoique dans un jour où la Sainte Femme n'avait pas coutume de sortir, il ne laissa pas de le faire, bien persuadé qu'on ne l'interrogerait pas là-dessus. Comme une des premières choses qu'il avait faites en arrivant avait été d'aller reconnaître le palais d'Aladin, et que c'était là qu'il avait projeté de jouer son rôle, il prit son chemin de ce côté-là. Dès qu'on eut aperçu la Sainte Femme, comme tout le peuple se l'imagina, le magicien fut bientôt environné d'une grande affluence de monde. Les uns se recommandaient à ses prières, d'autres lui baisaient la main, d'autres enfin plus réservés ne lui baisaient que le bas de la robe.
et d'autres, soit qu'ils eussent mal à la tête, soit que leur intention fût seulement d'en être préservés, s'inclinaient devant lui, afin qu'il leur imposât les mains. Ce qu'il faisait, en marmonnant quelques paroles en guise de prière. Et il imitait si bien la sainte femme que tout le monde le prenait pour elle. Après s'être arrêté souvent pour satisfaire ces sortes de gens qui ne recevaient ni bien ni mal de cette sorte d'imposition de main, il arriva enfin dans la place du palais d'Aladin où, comme l'affluence fut plus grande, l'empressement fut aussi plus grand à qui s'approcherait de lui. Les plus forts et les plus zélés fendaient la foule pour se faire place, et de là s'élevaient des querelles dont le bruit se fit entendre au salon des 24 croisés où était la princesse Badroulboudour. La princesse demanda ce qu'était ce bruit. Comme personne ne put rien lui en dire, elle commanda qu'on alla voir et qu'on vint lui en rendre compte. Sans sortir du salon, une de ses femmes regarda par une jalousie et elle revint lui dire que le bruit venait de la foule du monde qui environnait la sainte femme pour se faire guérir du mal de tête par l'imposition de ses mains. La princesse, qui depuis longtemps avait entendu dire beaucoup de bien de la sainte femme mais qui ne l'avait encore jamais vue, eut la curiosité de la voir et de s'entretenir avec elle. Comme elle en eut témoigné quelque chose, le chef de ses eunuques qui était présent lui dit que si elle le souhaitait, il était aisé de la faire venir et qu'elle n'avait qu'à commander. La princesse y consentit et aussitôt il détacha 4 eunuques avec ordre d'amener la prétendue sainte femme. Dès que les eunuques furent sortis de la porte du palais d'Aladin et qu'on eut vu qu'ils venaient du côté où était le magicien déguisé, la foule se dissipa et quand il fut libre et qu'il eut vu qu'il venait à lui, il fit une partie du chemin avec d'autant plus de joie qu'il voyait que sa fourberie prenait un bon chemin. Celui des eunuques qui prit la parole lui dit « Sainte femme, la princesse veut vous voir, venez et suivez-nous. »
« Oh, la princesse me fait bien de l'honneur, » reprit la feinte Fatima, « je suis prête à lui obéir. »
Et dans le même temps, elle suivit les eunuques qui avaient déjà repris le chemin du palais. Quand le magicien qui sous un habit de sainteté cachait un cœur diabolique eut été introduit dans le salon aux 24 croisés et qu'il eut aperçu la princesse, il débuta par une prière qui contenait une longue énumération de vœux et de souhaits pour sa santé, pour sa prospérité et pour l'accomplissement de tout ce qu'elle pouvait désirer. Il déployait ensuite toute sa rhétorique d'imposteur et d'hypocrite pour s'insinuer dans l'esprit de la princesse, sous le manteau d'une grande piété. Il lui fut d'autant plus aisé de réussir que la princesse, qui était bonne naturellement, était persuadée que tout le monde était bon comme elle, ceux et celles particulièrement qui faisaient profession de servir Dieu dans la retraite. Quand la fausse Fatima eut achevé sa longue harangue, « Ma bonne mère, lui dit la princesse, je vous remercie de vos bonnes prières, j'y ai confiance et j'espère que Dieu les exaucera. Approchez et asseyez-vous près de moi. » La fausse Fatima s'assit avec une modestie affectée. Et alors, en reprenant la parole, « Ma bonne mère, dit la princesse, je vous demande une chose qu'il faut que vous m'accordiez. Ne me refusez pas, je vous en prie. C'est que vous demeuriez avec moi, afin que vous m'entreteniez de votre vie, et que j'apprenne de vous, et par vos bons exemples, comment je dois servir Dieu. »
« Princesse, je vous supplie de ne pas exiger de moi une chose à laquelle je ne puis consentir sans me détourner et me distraire de mes prières et de mes exercices de dévotion. »
« Que cela ne vous fasse pas de peine, reprit la princesse, j'ai plusieurs appartements qui ne sont pas occupés, vous choisirez celui qui vous conviendra le mieux et vous y ferez tous vos exercices avec la même liberté que dans votre ermitage. » Le magicien, qui n'avait d'autre but que de s'introduire dans le palais d'Aladin, où il lui serait plus aisé d'exécuter la méchanceté qu'il méditait, en y demeurant sous les auspices et la protection de la princesse, que s'il eût été obligé d'aller et de venir de l'ermitage au palais et du palais à l'ermitage, ne fit pas plus de grandes instances pour s'excuser d'accepter l'offre obligeante de la princesse.
« Princesse, dit-il, quelque résolution qu'une femme pauvre et misérable comme je suis ait fait de renoncer au monde, à ses pompes, à ses grandeurs. Je n'ose prendre la hardiesse de résister à la volonté et au commandement d'une princesse si pieuse, si charitable. »
Sur cette réponse du magicien, la princesse, en se levant elle-même, lui dit « Levez-vous et venez avec moi, que je vous fasse voir les appartements vides que j'ai, afin que vous choisissiez. » Il suivit la princesse Badroulboudour, et de tous les appartements qu'elle lui fit voir, qui étaient très propres et très bien meublés, il choisit celui qui parut l'être moins que les autres, en disant par hypocrisie qu'il était trop bon pour lui,
et qu'il ne choisissait que pour complaire à la princesse. La princesse voulut ramener le fourbe au salon aux 24 croisés pour le faire dîner avec elle. Mais comme pour manger, il eût fallu qu'il se fût découvert le visage qu'il avait toujours eu voilé jusqu'alors et qu'il ne craignît que la princesse ne reconnût qu'il n'était pas Fatima la sainte femme, il la pria avec tant d'instance de l'en dispenser en lui représentant qu'il ne mangeait que du pain et quelques fruits secs et de lui permettre de prendre son petit repas dans son appartement, qu'elle le lui accorda. « Ma bonne mère, lui dit-elle, vous êtes libre, faites comme si vous étiez dans votre ermitage. Je vous fais apporter à manger, mais souvenez-vous que je vous attends dès que vous aurez pris votre repas. » La princesse dîna, et la fausse Fatima ne manqua pas de venir la retrouver dès qu'elle eut appris, par un eunuque qu'elle avait prié de l'en avertir, qu'elle était sortie de table. « Ma bonne mère, lui dit la princesse, je suis ravie de posséder une sainte femme comme vous qui va faire la bénédiction de ce palais. À propos de ce palais, comment le trouvez-vous ? Mais avant que je vous le fasse voir pièce par pièce, dites-moi premièrement ce que vous pensez de ce salon. » Sur cette demande, la fausse Fatima, qui pour mieux jouer son rôle avait affecté jusqu'alors d'avoir la tête baissée, sans même la détourner pour regarder d'un côté ou de l'autre, la leva enfin et parcourut le salon des yeux d'un bout jusqu'à l'autre. Et quand elle l'eut bien considéré, « Princesse, dit-elle, ce salon est véritablement admirable et d'une grande beauté. Autant néanmoins qu'en peut juger une solitaire qui ne s'entend pas à ce qu'on trouve de beau dans le monde. Il me semble qu'il y manque quelque chose. » « Quelle chose, ma bonne mère ? » reprit la princesse. « Apprenez-le-moi, je vous en conjure. Pour moi, j'ai cru, et je l'avais entendu dire ainsi, qu'il n'y manquait rien. S'il y manque quelque chose, j'y ferai remédier. »
« Oh, princesse, répartit la fausse Fatima avec une grande dissimulation, pardonnez-moi la liberté que je prends. Mon avis, s'il peut être de quelque importance, serait que si, au haut et au milieu de ce dôme, il y avait un œuf de roc suspendu, ce salon n'aurait point de pareil dans les quatre parties du monde et votre palais serait la merveille de l'univers. »
« Ma bonne mère, demanda la princesse, quel oiseau est-ce que le roc, et où pourrait-on en trouver un œuf ? »
« Princesse, répondit la fausse Fatima, c'est un oiseau d'une grandeur prodigieuse qui habite au plus haut du mont Caucase. L'architecte de votre palais peut vous en trouver un. »
Après avoir remercié la fausse Fatima de son bon avis à ce qu'elle croyait, la princesse Badroulboudour continua de s'entretenir avec elle sur d'autres sujets, mais elle n'oublia pas l'œuf de roc qui fit qu'elle compta bien en parler à Aladdin dès qu'il serait revenu de la chasse. Il y avait 6 jours qu'il y était allé, et le magicien ne l'avait pas ignoré et avait voulu profiter de son absence. Il revint le jour même, sur le soir, dans le temps que la fausse Fatima venait de prendre congé de la princesse et de se retirer dans son appartement. En arrivant, il monta à l'appartement de la princesse qui venait d'y rentrer. Il la salua et l'embrassa. Mais il lui parut qu'elle le recevait avec un peu de froideur. « Ma princesse, je ne trouve pas en vous la même gaieté que j'ai coutume d'y trouver. Est-il arrivé quelque chose pendant mon absence qui vous ait déplu et causé chagrin ou mécontentement ? Au nom de Dieu, ne me le cachez pas. Il n'y a rien que je ne fasse pour vous le faire dissiper, s'il est en mon pouvoir. » « C'est peu de choses, reprit la princesse, et cela me donne si peu d'inquiétude que je n'ai pas cru qu'il en eût rien rejailli sur mon visage pour vous en faire apercevoir. Mais puisque contre mon attente vous y apercevez quelque altération, je ne vous en dissimulerai pas la cause, qui est de très peu de conséquences. J'avais cru avec vous, continua la princesse, que notre palais était le plus superbe, le plus magnifique, le plus accompli qu'il y eût au monde. Je vous dirai néanmoins ce qui m'est venu dans la pensée après avoir bien examiné le salon aux 24 croisées. Ne trouvez-vous pas comme moi qu'il n'y aurait rien de plus à désirer si un œuf de roc était suspendu au milieu de l'enfoncement du dôme ?«
Princesse, répartit Aladdin, il suffit que vous trouviez qu'il y manque un œuf de roc pour que j'y trouve le même défaut. Vous verrez par la diligence que je vais apporter à le réparer qu'il n'y a rien que je ne fasse pour l'amour de vous. »
Dans le moment, Aladdin quitta la princesse Badroulboudour.
Il monta au salon aux 24 croisées, et après avoir tiré de son sein la lampe qu'il portait toujours sur lui, en quelques lieues qu'il alla, depuis le danger qu'il avait couru pour avoir négligé de prendre cette précaution, il la frotta. Aussitôt, le génie se présenta devant lui. « Génie, lui dit Aladin, il manque à ce dôme un œuf de roc suspendu au milieu de l'enfoncement. Je te demande, au nom de la lampe que je tiens, que tu fasses en sorte que ce défaut soit réparé. » Aladin n'eut pas plutôt achevé de prononcer ces paroles que le génie fit un cri si bruyant et si épouvantable que le salon fut ébranlé et qu'Aladin, chancelant, fut prêt de tomber de son haut.
« Quoi, misérable ! »
lui dit le génie d'une voix à faire trembler l'homme le plus assuré.
« Ne te suffit-il pas que mes compagnons et moi ayons fait toute chose en ta considération pour me demander par une ingratitude qui n'a pas de pareil que je t'apporte mon maître et que je le pende au milieu de la voûte de ce dôme ? Cet attentat mériterait que vous fussiez réduit en cendres sur le champ, toi, ta femme, ton palais. Mais tu es heureux de ne pas en être l'auteur et que la demande ne vienne pas directement de ta part. Apprends donc quel en est le véritable auteur. C'est le frère du magicien africain, ton ennemi, que tu as exterminé comme il méritait. Il est dans ton palais, déguisé sous l'habit de Fatima, la sainte femme qu'il a assassinée. Et c'est lui qui a suggéré à ta femme de faire la demande pernicieuse que tu m'as faite. Son dessein est de te tuer. C'est à toi d'y prendre garde. »
Et en achevant ces paroles, il disparut. Aladin ne perdit pas une des dernières paroles du génie qu'il avait entendu parler de Fatima, la sainte femme, et dont il n'ignorait pas de quelle manière elle guérissait le mal de tête, à ce que l'on prétendait. Il revint à l'appartement de la princesse sans parler de ce qui venait de lui arriver. Il s'assit, en disant qu'un grand mal de tête venait de le prendre tout d'un coup, et en s'appuyant la main contre le front. La princesse commanda aussitôt qu'on fît venir la sainte femme. Et pendant qu'on alla l'appeler, elle raconta à Aladin à quelle occasion elle se trouvait dans le palais où on lui avait donné un appartement. La fausse Fatima arriva, et dès qu'elle fut entrée, « Venez, ma bonne mère, lui dit Aladin, je suis bien aise de vous voir et de ce que mon bonheur veut que vous vous trouviez ici. Je suis tourmenté d'un furieux mal de tête qui vient de me saisir. Je demande votre secours par la confiance que j'ai en vos bonnes prières, et j'espère que vous ne me refuserez pas la grâce que vous faites à tant d'affligés de ce mal. » En achevant ces paroles, il se leva en baissant la tête. Et la fausse Fatima s'avança de son côté, mais en portant la main sur un poignard qu'elle avait à sa ceinture sous sa robe. Aladin, qui l'observait, lui saisit la main avant qu'elle l'eût tirée, et en lui perçant le cœur du sien, il la jeta morte sur le plancher.
« Mon cher époux, qu'avez-vous fait ? » s'écria la princesse dans sa surprise. « Vous avez tué la sainte femme !»
« Non, princesse, répondit Aladin sans s'émouvoir, je n'ai pas tué Fatima, mais un scélérat qui allait m'assassiner si je ne l'eusse prévenu. C'est ce méchant homme que vous voyez, ajouta-t-il en le dévoilant, qui a étranglé Fatima et que vous avez cru regretter en m'accusant de sa mort et qui s'était déguisé sous son habit pour me poignarder. Et afin que vous le connaissiez mieux, il était frère du magicien africain, votre ravisseur. » Aladin lui raconta ensuite par quelle voie il avait appris ses particularités, après quoi il fit enlever le cadavre. C'est ainsi qu'Aladin fut délivré de la persécution des deux frères magiciens. Peu d'années après, le sultan mourut dans une grande vieillesse. Comme il ne laissa pas d'enfant mâle, la princesse Badroul-Boudour, en qualité de légitime héritière, lui succéda et communiqua la puissance suprême à Aladin. Ils régnèrent ensemble de longues années et laissèrent une illustre postérité. Sire, dit la sultane Scheherazade en achevant l'histoire des aventures arrivées à l'occasion de la lampe merveilleuse. « Votre Majesté aura sans doute remarqué dans la personne du magicien africain un homme abandonné à la passion démesurée de posséder des trésors par des voies condamnables. Dans Aladin, elle voit au contraire un homme qui, d'une basse naissance, s'élève jusqu'à la royauté en se servant des mêmes trésors qui lui viennent sans les chercher, seulement à mesure qu'il en a besoin pour parvenir à la fin qu'il s'est proposée. Dans le sultan, elle aura appris combien un monarque bon, juste et équitable court de danger et risque même d'être détrôné lorsque par une injustice criante, contre toutes les règles de l'équité, il ose, par une promptitude déraisonnable, condamner un innocent sans vouloir l'entendre dans sa justification. Enfin, elle aura eu horreur des abominations de deux scélérats magiciens, dont l'un sacrifie sa vie pour posséder des trésors, et l'autre sa religion à la vengeance d'un scélérat comme lui, et qui, comme lui aussi, reçoit le châtiment de sa méchanceté.